Jusqu'au 27 août, chaque jour, Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, reçoit un grand cuisinier à l'heure du déjeuner.
Voici notre quatrième semaine de traités culinaires et savants qui commence avec notre rendez-vous du lundi. Pierre Gagnère, bonjour Pierre.
Bonjour Hervé.
Alors Pierre Gagnère est le cuisinier, comme il dit, et non pas le chef du restaurant Pierre Gagnère à Paris, de restaurant Sketch à Londres. C'est plus compliqué que ça, hein. C'est pas seulement un restaurant Sketch, c'est aussi une pâtisserie,
une gastro-brasserie, un lieu de... Un lieu assez festif où on fait pas mal de couverts, et puis une petite un petit lieu plus confidentiel d'une quarantaine de places qui est censé plus représenter le travail que je fais à Paris. Mais ce n'est que la traduction de ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que c'est pas copie conforme de ce que je fais à Paris, mais c'est une expression peut-être un peu plus lisible, un peu plus dans tous les cas plus retraductible par mes équipes puisque je suis pas tout le temps là.
Ouais.
Bon, et bien forcément à Londres, les choses mises en place, il y a un canevas assez précis qui est donné aux gens. Après, les gens le traduisent un peu à leur manière, finalement.
Les gens, tu veux dire l'équipe
de cuisine. Mon équipe de cuisine. Et on essaye, j'essaie de donner des informations assez précises, assez éprouvées, de manière à ce qu'ils ne soient pas perdus. Mais c'est vrai que, à mon insu, et c'est ça qui est intéressant, ils se développent un esprit sketch. C'est-à-dire que j'ai donné un impulse, comme ça, bouf, et puis j'y vais régulièrement, je recale un peu les boulons, mais finalement la voiture, je la conduis pas. Donc j'ai fondé la bagnole, mais finalement c'est eux qui la conduisent, et ils la conduisent à leur manière. Et j'ai parfois des très heureuses surprises.
Très bien. Alors aujourd'hui, Pierre, dans notre semaine consacrée aux sauces, je t'ai proposé la sauce nommée veloutée,
oui,
avec un sous-titre qui est « Comment inventer des sauces aimantes ?» Alors aimantes, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, pour partir dans cette aventure du velouté, je te propose une recette tirée du guide culinaire d'Auguste Escoffier, 1902. Donc une recette de velouté. Hein. Velouté ou sauce blanche grasse, proportion pour 5 litres. Alors, élément de liaison, 625 grammes de roux clair avec beurre, fond blanc de veau 5,5 litres. Procédé, disperser le roux dans le fond, froid ou chaud, mais de façon à obtenir une sauce légère. Porter à ébullition en fouettant, puis s'efforcer de conserver une ébullition régulière afin d'obtenir un dépouillement parfait.
Oui.
Temps de cuisson, 1h30.
Oui.
Filtrer la sauce. Voilà, il faut 1h30 pour faire une sauce veloutée, oui, selon, oui, Escoffier. C'est long, 1h30. Hein.
Oui.
Quand il y a les 35 heures, on n'en fait pas beaucoup. Hein.
Oui, et même, moi j'ai connu l'époque où on faisait des espèces de sauces de base qui ont été rejetées à l'époque et qui aujourd'hui sont toujours rejetées parce que pour des problèmes, effectivement, de 35 heures, de temps, ces veloutés étaient extrêmement épais. On les mettait dans des torchons mouillés et on pliait le torchon. Et on exprimait ce velouté, ce qui faisait qu'on gardait toutes les impuretés de la sauce, et on obtenait une espèce de velouté incroyablement goûteux, pas très fort, mais qui permettait d'avoir des liaisons parfaites. C'était superbe, mais quand je dis parfait, ça c'est ma réflexion d'un gamin de 18 ans. Est-ce qu'elles étaient beaucoup plus parfaites qu'une sauce liée comme ça, un peu rapidement
avec à la maïzena,
voilà. Donc, et c'était un boulot de folie. C'était extrêmement pénible. Enfin, il y avait ces torchons à tordre. C'était l'horreur.
Et ouais. Le dépouillement, alors lui, on le fait encore?
Ah oui, on dépouille toujours, oui.
On dépouille toujours.
Ah oui.
Donc, dépouillement pour les auditeurs, tu peux raconter.
Enfin, dépouiller, c'est avec un petit objet, genre petite louche. C'est ramasser en surface les particules un petit peu mousseuses, sales, qui vont venir troubler le velouté ou le jus.
D'accord. Bon, on est presque déjà dans le tour de main, donc il faut y aller.
Thank you.
Chapitre 2 de notre émission consacrée au velouté en compagnie de Pierre Gagnaire. Alors, Pierre, on parlait du dépouillement. Alors, j'ai trouvé, par exemple, une indication intéressante pour dépouiller, me dit-on. On met la casserole sur un coin, on soulève un côté avec une petite cale, de telle façon qu'elle ne soit chauffée que par un point. Et de ce fait, le liquide chauffé va monter, puis se refroidir en arrivant au sommet de la sauce et redescendre par les bords.
Oui, oui.
Donc on fait ce que les physiciens appellent une cellule de convection. J'interprète, c'est Madame Saint-Ange en 1925 qui dit ça, donc elle n'a pas parlé de cellule de convection. Et alors elle dit, effectivement, avec la cuillère, on va récupérer les impuretés.
Oui,
les
oui.
impuretés. Alors du coup, cuire longtemps ou cuire pas longtemps, c'est ça la question du velouté.
Plutôt cuire longtemps apparemment.
Plutôt cuire longtemps.
Oui.
Mais ben alors, en dépouillant aujourd'hui ou sans dépouiller?
Mais on fait plus de velouté, Hervé.
Ah, on fait plus de velouté, ça résout le problème. Et pourquoi on fait plus de velouté? Parce que les sauces, la béchamel,
parce que
blanche,
parce que
la sauce blanche n'a plus d'intérêt.
Parce que non, mais bêtement d'ailleurs, parce que on a mis au rancard la farine en disant que c'était trop lourd, que ça c'était, alors qu'un velouté bien fait, c'est extrêmement digeste, il n'y a aucun problème.
Hein. Oui.
Aucun problème. Mais il n'y a plus une cuisine qui fait un velouté, à mon avis.
Ah bon.
Ce qui est dommage.
Ah oui, c'est dommage, oui. C'est quand même bizarre, parce que tu vois, avec un étudiant qui était au laboratoire, Raphaël Aumont, puis avec un autre étudiant qui est venu au laboratoire, Vincent Pajot, et récemment avec un ingénieur de recherche qui est toujours au laboratoire, qui s'appelle Robert Méric, on s'est intéressé au velouté, on voulait savoir ce que c'était que ces impuretés, parce que c'est quand même intéressant. Donc on a pris de l'eau distillée, donc il n'y a pas d'impureté. On a pris une farine extrêmement pure, sans impureté. On a pris une graisse très pure, sans aucune impureté. On a fait un velouté sans aucune impureté et on a vu surnager des impuretés. Alors que c'est quoi des impuretés? Ma théorie c'est que ça serait simplement la sauce qui croûte en surface,
oui.
quoi, qui croûte elle-même en surface. Et... Bon, il peut y avoir des impuretés quand on prend des trucs très très sales, mais sinon il n'y a pas d'impureté quoi. Alors pourquoi le dépouillement? Vraie question. Une heure et demie de travail, à quoi ça sert? Alors là, on a regardé le gras. L'hypothèse c'était que progressivement, comme il y a beaucoup de gras dans le roux, c'est-à-dire la préparation,
oui.
Beurre plus farine qu'on fait au début, est-ce que par exemple le dépouillement ne donnerait pas le temps à la cuillère d'enlever du gras en excès?
Est-ce que c'est possible pour cuire farine, pour qu'elle ait le temps de cuire, qu'elle ait le temps de, j'irais bon, peut-être un peu idiot, peut-être que c'est le temps de maturer, que c'est le temps de bien prendre sa place? Peut-être.
Ouais. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le fait de dépouiller enlève du gras, ça certainement. Et on change la composition en matière grasse de la sauce totale, on en enlève. Il y en a, selon la façon dont on la cuit, il peut y en avoir une partie qui vient surnager, et ça, on le retire à la cuillère, donc on a une sauce moins grasse. Donc ça, c'est tout très avantageux. Une observation très intéressante, dans plusieurs des expériences qu'on a faites, en dépouillant très longtemps, on a vu apparaître une odeur de champignons. C'est-à-dire que notre velouté, c'était comme une soupe aux champignons.
Oui, c'est vrai.
Alors peut-être que ces cuissons lentes donnent le temps pour la chimie de faire du champignon.
Tu mets de l'eau.
À l'eau pure, oui. À l'eau pure. Au pur, farine, beurre, et on a un goût de champignon. Alors évidemment, c'est intéressant, parce que si la sauce prend un goût de champignon, elle s'enrichit gustativement. Mais on peut aussi mettre du champignon. il faut quand même savoir pourquoi la sauce épaissit, parce que c'est toute cette opération sert à épaissir la sauce et à la porter à son point d'épaississement optimal en quelque
absolument,
sorte. Hein.
Absolument.
Parce qu'une sauce c'est ni un jus ni une purée. On est bien d'accord. Hein.
Absolument.
C'est quoi pour toi une sauce d'ailleurs? Comment doit-elle être du point de vue de sa texture?
Elle doit être fluide, très très légèrement liée et doit napper légèrement le dos de la cuillère, très légèrement. Un velouté, lui, il va carrément accroché. Enfin, en gros, aussi, une sauce fluide, c'est une accroche qui va être de l'ordre d'un demi millimètre. Un velouté, on prend une cuillère, on met dedans, on va faire un trait, ça va être au moins 3 cm.
Voilà, oui, beaucoup plus épais.
Ah, beaucoup plus épais. Oui, mais ça va couler quand même. Hein. Ça va couler, c'est pas de la purée.
C'est pas de
la
purée.
Ça reste pas accroché.
Ni un jus, ni une purée.
Oui.
Nous voilà notre troisième chapitre de l'émission consacrée aux sauces et en particulier au velouté. Alors, un velouté n'est donc ni un liquide, ni un solide. C'est quelque chose qui coule, comme Pierre Gagnère nous le dit, qui coule, mais qui a quand même une épaisseur. Alors, pourquoi est-ce que ça a une épaisseur? Alors, Pierre, je te propose ma vision de la liaison de la sauce. On part de farine dans cette sauce de type velouté. La farine, c'est des petits grains. Et ces petits grains sont faits de couches concentriques, c'est des grains minuscules, hein, faits de couches concentriques qui contiennent deux sortes de molécules essentiellement, qui sont l'amylose et l'amylopectine. Alors imagine des fils et des fils ramifiés, enfin oui. Des petits arbres. Et tout ça est empilé. Alors quand on chauffe ces grains d'amidon ou de farine dans un liquide chaud, dans de l'eau chaude, les fils quittent les grains pour aller dans la sauce. Alors ça fait de l'encombrement en quelque sorte, et les grains se mettent à gonfler considérablement en absorbant l'eau. Alors évidemment, si les grains sont dispersés dans l'eau, l'eau coule, mais si les grains sont deviennent très très gros et ils se gênent, ben c'est un peu comme le métro aux heures de pointe, et à ce moment-là, il y a plus de place dans le métro, et donc le métro fait une masse. Et cette masse coule plus difficilement.
D'accord, ok.
Alors, quand on cuit très longtemps, un phénomène se passe, c'est que ces grains se déstructurent progressivement. Oui. Et au lieu d'occuper tout l'espace comme une espèce de pâte collante, ils vont reperdre un peu et redonner de la fluidité. Et à ce moment-là, je suppose que c'est ce que veulent les cuisiniers, c'est-à-dire une espèce de fluidité de la sauce, enfin, de fluidité épaisse, si on peut dire, de la sauce.
Oui, je résume ce que tu as dit. Effectivement, on lit, ça devient très épais.
Oui.
On cuit. Ça se détend, ça prend sa place.
Ça prend sa place.
Voilà, oui, ça prend sa place. Ouais, j'ai mis le mot. Ça prend sa place et ça prend effectivement. C'est ça qui est incroyable, c'est que le goût évolue.
En plus.
Ah, et oui.
Ouais, les deux phénomènes.
Le goût évolue. La couleur évolue. Et puis, ça prend sa place. Ça devient quelque chose. Ça devient une vraie véritable entité. C'est-à-dire que ça devient velouté. C'est-à-dire que c'est on voit plus le goût de farine, on a une texture très souple, très, très agréable en bouche.
Oh, sans la truffe,
Chapitre 4 de notre émission consacrée aux sauces et en particulier au velouté. Alors ça, c'est la punition pour Pierre Gagnère. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il ferait avec un velouté. Tu t'en sers ou tu t'en sers pas du tout?
Je m'en sers pas, mais c'est...
Parce que c'est quand même une espèce de sentiment confortable, les veloutés.
Oui.
Moi, j'appelle ça des sauces aimantes.
Non, mais surtout, des sauces
d'enfants.
Ce qui est très intéressant dans ce genre de travail, c'est qu'effectivement, on obtient des choses épaisses qui sont liées avec des choses qui sont pas grasses. Parce que la grande mode des sauces montées au beurre, on ne bouffe plus que du beurre ou d'olive, on ne sait plus ce qu'on a. Ça a une espèce de goût très très longiligne. Alors qu'un velouté, on peut l'enrichir, et la texture est même intéressante. Alors on peut y mettre un jus de crustacé, on va y mettre...
C'est-à-dire, tu prendras un roux, c'est-à-dire avec beurre plus farine, que tu fais brunir doucement, et au lieu de mettre du lait comme dans une sauce blanche, tu mettras un jus...
Non, je peux le laisser. Mon velouté va devenir un ingrédient.
Ah, donc tu fais un vrai velouté classique,
voilà.
Et tu t'en sers comme ingrédient.
Comme ingrédient. Par exemple, on fait un bouillon de légumes, il est très bon, mais comme il est très clair, il n'y a pas d'accroche. On met un peu de velouté, et le fait qu'il y ait ce velouté, et le fait qu'il y ait cette partie aimante, cette partie confortable, ça va tapisser le fond du palais, et on va donner une amplitude au goût de ce bouillon de légumes.
Alors, il y a cette question essentielle qui est-ce que la farine enlève pas du goût à ton bouillon de légumes?
Non, parce que, peut-être un petit peu, mais ce qu'on va gagner en confort au niveau gustatif, au niveau texture, va largement compenser la perte d'un petit peu de goût.
D'accord. Donc donner, pour les sauces, donner une espèce d'accroche qui va faire que le jus passera...
Pour moi, c'est systématique. Je n'aime pas les jus clairs, à moins de les manger de façon gloutonne à la cuillère, et c'est pas acceptable, parce que nos codes sociaux ne le permettent pas, parce qu'un jus de bœuf, c'est absolument délicieux. Et c'est pour ça que je cherche des jus froids, parce que des jus froids, justement, comme ils sont dans des cuillères, on les mers, ils se délitent, ils perdent, hop, ils partent dans tous les sens. On peut pas en profiter. Alors si un petit peu lié, on va véritablement avoir du plaisir à manger ce jus.
Mais ça, on retarde, on augmente la durée du plaisir, on augmente la longueur en bouche avec la liaison de la sauce.
Absolument, absolument.
Alors Pierre, tu dis que la sauce donne de la longueur en bouche, donne de l'accroche, permet d'installer le goût dans une espèce de durée. Quel est l'objectif de tout ça? C'est de donner du plaisir plus longtemps? C'est quoi?
C'est de, avec les moyens qui sont les miens, mis à ma disposition, avec le mode d'expression que j'ai choisi, c'est d'essayer d'observer les phénomènes les plus adaptés au plaisir et à la qualité de ce que je veux faire. Donc, moi, je passe mon temps à ça, c'est-à-dire que c'est essayer avec les connaissances techniques et les produits à ma disposition, c'est de trouver le meilleur moyen de raconter une histoire de cuisine qui est basée sur, effectivement, sur la qualité du goût, sur le plaisir de manger quelque chose qui fait du bien, quoi, qui vous contente, qui vous rassure, qui va vous amuser, qui va vous émouvoir, et voilà, tout simplement.
Alors j'essaie d'interpréter, j'avais cru que la cuisine c'était une technique, un peu plus tard je suis devenu un tout petit peu moins bête en pensant qu'il pouvait y avoir une composante artistique dans cette affaire. Maintenant, un sandwich avec des copains, c'est un moment extra, et un repas d'affaires avec des salauds, ça vous reste sur l'estomac. Donc oui. La cuisine c'est sans doute de l'amour. L'amour des commensaux, c'est-à-dire des gens qui sont avec vous à table, des convives, mais aussi l'amour du cuisinier. Est-ce que c'est ce jeu-là qui est en œuvre dans ta cuisine?
Oui, donner de l'amour, donner de la tendresse, donner de l'attention. On fait une sauce, un velouté. On va parler d'un velouté. Et ce velouté, on va s'en servir de base, par exemple, pour le servir, mettons, avec des, pourquoi pas, tiens, des oignons tout simplement vapeur. Oignon vapeur,
voilà. Oignon vapeur.
Le velouté, si on y met un peu de citron, un peu de sel, peut-être un peu de muscade, ou alors peut-être on va mettre peut-être un petit écorce de citron râpé, ou alors peut-être on va mettre un peu d'estragon.
Voilà, ça fait beaucoup là.
Oui, tout ce petit jeu, justement, c'est ça, hein. Quand quelqu'un écrit une mélodie, bon, après il va mettre un cœur, il va mettre. Il va rajouter une cymbale, il va rajouter peut-être derrière une deuxième voix. Enfin, après il y a l'habillage. Alors, l'important c'est que l'amour, oui, à condition que l'on ait acquis avec le temps à cette technique. Si je me contentais aujourd'hui de travailler sur la technique que j'avais il y a 20 ans, je ne pourrais pas avancer. Donc, toute avancée, je dirais, émotionnelle, doit être confortée par une bonne assise technique.
Pierre, merci pour cette description des sauces. Je te donne rendez-vous donc lundi prochain. Notre dernier rendez-vous de cette série traitée culinaire et savant pour parler des desserts.
Un traité culinaire et savant par Hervitis. Réalisation Bruno Sourcy.